Théologie biblique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 26 février 85.
Nous allons continuer le livre de l'Exode. Je crois que nous étions arrivés au livre 25, n'est-ce pas ? Yahvé parla à Moïse, chapitre 25, en ces termes. « Dis aux fils d'Israël de prendre pour moi un prélèvement de tout homme que son cœur y poussera, vous prendrez un prélèvement. Et voici le prélèvement que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent et du bronze. » De la pourpre violette, de la pourpre rouge, du cramoisi, du lin fin et des poils de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des baumes pour l'huile de l'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et des pierres à sertir pour l'éphode et le pectoral. Donc, vous voyez, l'intention de Dieu, c'est pour la construction du sanctuaire. Et cette construction du sanctuaire, c'est Dieu qui en donne, comme nous allons voir, comme la cause exemplaire. C'est très étonnant. Et Dieu veut que ça se fasse dans une coopération, le prélèvement. Il s'agit que chacun y mette sa part. Ça, c'est une volonté expresse de Dieu. Vous voyez la différence avec la manne. La gratuité de Dieu, et ici au contraire, Dieu qui veut que ce soit une œuvre commune. Donc c'est très important de voir ces choses-là au point de vue de la conduite de Dieu et de l'économie divine. C'est que Dieu nous apporte tout et nous donne tout gratuitement. On verrait, si vous voulez, pour nous, l'Eucharistie, la manne nouvelle, c'est l'Eucharistie. C'est la gratuité la plus absolue. Et Dieu veut en même temps qu'il y ait une coopération. Dieu ne veut pas favoriser l'oisiveté. Et Dieu veut que nous coopérions avec lui. Toute la sanctification du travail. Et la sanctification du travail, c'est Dieu qui veut cette coopération. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est bien évident. Dieu n'a pas besoin de faire que l'homme domine l'univers. Dieu aurait pu faire un univers qui soit beaucoup plus parfait. Et que cet univers étant beaucoup plus parfait, il n'y ait pas la place du travail de l'homme. Il n'y a pas la possibilité de la coopération. Il n'y a pas la possibilité que l'homme soit vraiment celui à qui Dieu demande cette coopération. Dieu a voulu cela. Il a voulu qu'il y ait un univers imparfait qui puisse être complété par l'art, qui puisse être complété par le travail de l'homme. Qui puisse être complété par cette coopération que Dieu réclame de l'homme. Alors, comprenons la finalité, ça nous est expliqué, ça. C'est que Dieu veut nous faire comprendre que l'homme est source, comme Dieu. Coopérer, non pas à la création, c'est faux dire, puisqu'on ne peut pas coopérer à la création, mais coopérer à l'œuvre de la création. Alors, coopérer à l'œuvre de la création, c'est justement comprendre que cette œuvre que Dieu nous donne n'est pas parfaite et elle a besoin d'être perfectionnée par notre labeur. C'est bien ce qui nous est montré ici. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Et pour une œuvre religieuse, Dieu qui réclame un sanctuaire. Alors là, pour ceux qui font une fiche, hein, comprenons la fiche au niveau du temple. C'est la grande question du temple. Sanctification du lieu. Le sabbat, c'est la sanctification du temps. Et la sanctification du lieu, c'est le temple. Dieu qui veut qu'il y ait un sanctuaire, qui lui soit consacré. Tous les lieux appartiennent à Dieu, puisque Dieu est omniprésent, partout. Mais il veut cependant qu'il y ait, parmi tous les lieux, un lieu qui lui appartienne d'une façon particulière. Un lieu qui lui est consacré. Je crois que ça, c'est très important de bien voir ces deux dimensions tout à fait différentes du sabbat et du temple. Alors on pourrait dire que le temple, il commence dès que l'homme fait un autel. Alors à ce point de vue-là, la question du temple serait antérieure au sabbat. Parce que je crois que la construction d'un autel, c'est le point de départ d'un lieu consacré à Dieu. Et Bethel, Dieu est apparu là. Dieu est venu là. Alors parce que Dieu est venu là, ce lieu est saint. Il y a une présence de Dieu. Toute la question du temple et la question du lieu consacré à Dieu, avec les autels, c'est pour montrer la présence de Dieu. Alors que le sabbat, c'est la consécration du temps. Et le sabbat, c'est juste l'inverse. Il réclame le repos de l'homme. Il réclame le repos de l'homme pour que l'homme comprenne le mystère de l'adoration et le mystère de la contemplation. Ça, c'est extrêmement curieux comme pédagogie divine. Il s'agit d'écouter et de comprendre cette pédagogie divine. Comment Dieu éduque l'homme, comment Dieu va donner à l'homme le sens de son omniprésence, de son éternité. Parce qu'il y a l'omniprésence et l'éternité. Le temps se comprend dans la lumière d'éternité. Et le lieu se comprend dans la présence de l'omniprésence. Pas dans un jugement de sagesse. Quand nous verrons l'éternité, nous verrons comment nous pouvons comprendre le temps dans la lumière. Et alors, il y a la main de Dieu sur l'ordre du temps et sur l'ordre des lieux. Et la main de Dieu sur l'ordre des lieux, c'est la construction du temple et la construction de l'autel. Parce que le temple, c'est pour l'autel. Le temple, c'est pour la présence de Dieu. Tandis qu'au contraire, le sabbat, c'est pour que l'homme, dans son cœur, soit présent à Dieu. Vous voyez, présence visible, présence invisible. On pourrait dire ça, hein, présence visible, présence invisible, puisqu'il faut que le corps et l'âme, tous les deux. Alors, le point de vue visible, c'est le lieu, et le point de vue invisible, c'est le point de vue du temps. Parce que le temps est quelque chose de plus intérieur que le lieu. Le temps est quelque chose que nous portons. Et c'est très curieux que ce sont les deux manières dont l'homme est conditionné. Hein. Conditionné par le temps et par le lieu. Et Dieu met sa main sur le temps et sur le lieu, pour montrer comment l'homme doit lui appartenir pleinement et totalement. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Donc la construction du sanctuaire réclamé par Dieu et réclamé, Dieu réclame le concours de l'homme, c'est pour que Dieu demeure. Donc c'est le commencement de toute la grande théologie de la présence, de l'omniprésence. Pour qu'il y ait un signe de l'omniprésence. Selon tout ce que je te montre, comme le modèle de la demeure et comme le modèle de tout son mobilier, ainsi ferez-vous. Donc, révélation de la cause exemplaire, hein, si j'ose dire. Comprenez bien. C'est Dieu qui donne un modèle. C'est Dieu architecte de son peuple. Et c'est vraiment Dieu architecte de son peuple. Il a donné la loi, il est législateur de son peuple, il est l'architecte au niveau religieux. Et il faut que la maison de Dieu, que la demeure de Dieu soit digne de Dieu, à la dimension de la majesté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Ils feront une arche. Alors je crois que là, évidemment, on comprend très bien, c'est le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est donc le point de départ de toute la liturgie. La liturgie est commencée par le sacrifice. Et la liturgie prend toute son ampleur grâce au sanctuaire, grâce à un lieu qui est consacré à Dieu. Ils feront une arche en bois d'acacia, de 2 coudées et demie sera sa longueur, d'une coudée et demie sa largeur, et d'une coudée et demie sa hauteur. Tu la recouvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, tu la recouvriras. Et tu feras sur elle une moulure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les placeras à ses 4 pieds. 2 anneaux sur son premier côté, 2 anneaux sur son second côté. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, qu'elles serviront à transporter. Dieu éduque vraiment son peuple, hein, à être menuisier et à construire exactement ce qu'il faut. Et tous les détails y sont. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche. Elles n'en seront pas retirées. Tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Évidemment, on peut se demander, hein, on voit très bien, au point de vue critique, comment on peut dire tout ça, mais oui, c'est l'invention de Moïse qui donne ça, venant de Dieu, c'est l'inspiration de Moïse. C'est pas donné du tout comme une inspiration de Moïse, c'est donné comme une volonté expresse de Dieu. Dieu qui téléguide son peuple, et qui se sert évidemment de Moïse, c'est sûr. Mais vous voyez, c'est pas l'architecture égyptienne. C'est autre chose. Tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. De 2 coudées et demie sera sa longueur, et d'une coudée et demie sera sa largeur. Tu feras 2 chérubins d'or. Alors ça, c'est les chérubins qui apparaissent. Les chérubins qui apparaissent, c'est extrêmement intéressant, ça. Hein, toute la grande tradition à travers l'écriture des chérubins. Les kéroubines, c'est quand même quelque chose de très important. Ça réapparaît dans l'Apocalypse. Il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même là quelque chose de très curieux, comme symbolisme de la présence de Dieu. Tu feras 2 chandeliers d'or, en métal repoussé, tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins formant corps avec le propitiatoire sur les 2 extrémités. Les chérubins auront les 2 ailes déployées vers le haut, protégeant de leurs ailes le dessus du propitiatoire, leurs faces l'une vers l'autre. Les faces des chérubins seront en direction du propitiatoire. Tu placeras le propitiatoire sur l'arche, par-dessus, et dans l'arche, tu placeras le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi et que, de dessus le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, je parlerai avec toi de tout ce que je te commanderai pour les fils d'Israël. C'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre de l'homme et de Dieu. Et comme Moïse est choisi par Dieu comme médiateur, nous précisons le rôle propre de sa médiation. Il est celui qui reçoit les ordres de Dieu. c'est là que je me rencontrerai avec toi et que de dessus le propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, je parlerai avec toi de tout ce que je te commanderai pour les fils d'Israël. Oui, c'est très impressionnant au point de vue liturgique. Hein, c'est vraiment la liturgie qui commence ici, on peut dire. Hein, c'est l'éducation liturgique de Dieu pour son peuple, qui doit être un peuple religieux. Oui, jusque-là, c'était uniquement l'adoration et l'action de grâce. Ici, il y a quelque chose de plus, puisqu'il y a la demeure. Et autour de la demeure, vous voyez tout un contexte qui montre comment Dieu sera présent et Dieu communiquera ses volontés. Et que Dieu communique ses volontés par Moïse. Par médiation au niveau du législateur, au niveau des commandements de Dieu. Ce mystère de médiation. Ce n'est pas une médiation sacerdotale, c'est une médiation de législateur. Elle a quelque chose de royal. Et je crois qu'on peut dire qu'elle est royale dans le sens que c'est une légide du législateur. Mais elle est liée quand même à l'aspect religieux, pas du tout extrinsèque. Hein. C'est l'aspect religieux qui domine, c'est l'aspect religieux qui commande toute cette grande liturgie et cette coopération. Puisque le propre de la liturgie, c'est justement lorsque Dieu nous demande de coopérer. Tu feras une table en bois d'acacia. De deux coudées sera sa longueur, d'une coudée sa largeur, d'une coudée et demie sa hauteur. Tu la recouvriras d'or pur et tu lui feras une moulure d'or tout autour. Tu lui feras un panneau d'un palme tout autour et tu feras une moulure d'or à son panneau tout autour. Tu feras pour elle quatre anneaux d'or et tu placeras les anneaux aux quatre coins, ceux de ses quatre pieds. Près du panneau seront les anneaux pour loger les barres destinées à transporter la table. Tu feras les barres en bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Elles serviront à transporter la table. Tu feras ses plats et ses bols, ses aiguillères et ses patères avec lesquels on fait les libations. D'or pur, tu les feras. Tu placeras sur la table le pain de la face devant moi perpétuellement. Toujours cet aspect de la présence de Dieu. Tous les détails sont intéressants. Vous regardez évidemment, là serait intéressant de regarder l'exégèse des pères, hein, l'exégèse très allégorique pour montrer. Je crois qu'en effet, il y a un sens, hein, puisque c'est demandé par Dieu. Mais un sens de tout ce que peut représenter ce point de vue de l'union de Dieu et de son peuple. C'est pour ça qu'il y a cette demeure. Tu feras un candélabre d'or pur. Alors vous voyez, on retrouve de l'Apocalypse, on retrouvait ça constamment, hein. Ça c'est sûr. Ça, c'est évident qu'il y a là des liens entre le point de vue de l'Apocalypse et l'Exode. Tu feras un candélabre d'or pur, en métal repoussé sera fait le candélabre, ainsi que sa tige et ses branches, ses calices, ses boutons, ses fleurs feront corps avec lui. Six branches sortiront de ses côtés. Trois branches du candélabre de son premier côté, trois branches du côté du candélabre de son second côté. Il y aura trois calices en forme de fleurs d'amandier sur une branche avec boutons et fleurs, et trois calices en forme de fleurs d'amandier sur une autre branche avec boutons et fleurs. Ainsi en sera-t-il pour les 6 branches sortant du candélabre. Le candélabre aura 4 calices en forme de fleurs d'amandier, avec leurs boutons et leurs fleurs. Pour les 6 branches sortant du candélabre, il y aura un bouton sous 2 branches, faisant corps avec lui. Un bouton sous 2 branches, faisant corps avec lui. Un bouton sous les 2 branches, faisant corps avec lui. Leurs boutons et leurs branches feront corps avec lui, le tout d'un seul métal repoussé d'or pur. Il y a tout symbolisme hein, derrière. Tu feras ces lampes au nombre de 7. On fera monter ces lampes de manière qu'elles éclairent au-delà sur son devant. Ces mouchettes et ces cassolettes seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le candélabre avec tous ses accessoires. Regarde et fais selon leur modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est Dieu qui s'occupe de tous les détails de cette attitude première liturgique. Vous voyez, c'est pas étonnant que les liturgistes hein, aiment les détails. Hein, ils suivent Dieu, là. Hein. Ils suivent Dieu pour montrer tous les détails, exactement comment ça doit se faire. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a le point de vue d'une œuvre d'art qui doit être parfaite. C'est au fond le mystère de Dieu présent au milieu des hommes et qui doit éduquer le peuple à rejoindre Dieu. C'est comme une espèce d'image étonnante de ce que Dieu réclame des hommes. Quant à la demeure, tu la feras de 10 toiles de fin lin retors, de pourpre violette, de pourpre rouge, de cramoisi. Avec des chérubins, œuvres d'artiste, tu les feras. La longueur d'une toile sera de 28 coudées et la largeur de 4 coudées pour une toile. Même dimension pour toutes les toiles. 5 toiles seront assemblées, sœur à sœur, et 5 toiles assemblées, sœur à sœur. Tu feras des brides de pourpre violette sur le bord de la première toile, à l'extrémité de l'assemblage, et ainsi feras-tu sur le bord de la toile qui est à l'extrémité du second assemblage. Tu feras 50 brides à la première toile, et tu feras 50 brides à l'extrémité de la toile du second assemblage, les brides se correspondant sœur à sœur. Tu vois le double, hein, l'équilibre et l'harmonie. Tu feras 50 agrafes d'or et assembleras les toiles sœur à sœur avec les agrafes. Ainsi la demeure formera un seul tout. L'unité, l'harmonie et en même temps le point de vue de la piété, d'être relié à Dieu. C'est à l'intérieur de ce lien avec Dieu que je crois qu'on doit comprendre toute cette vision architecturale de la demeure et du sanctuaire. Tu feras des toiles donc en poils de chèvre pour une tente au-dessus de la demeure. Tu feras 11 de ces toiles. La longueur d'une toile sera de 30 coudées, sa largeur de 4 coudées pour une toile, même dimension pour les 11 toiles. Tu assembleras à part 5 de ces toiles et à part 6 de ces toiles. Tu replieras la 6e toile vers le devant de la tente. Tu feras 50 brides sur le bord de la première toile qui est à l'extrémité de l'assemblage et 50 brides sur le bord de la toile du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze et tu introduiras les agrafes dans les brides. Ainsi, tu assembleras la tente et elle formera un seul tout. Quant à ce qui dépasse, en excédant, dans les toiles de la tente, la moitié de la toile en excédant dépassera sur la dernière, sur le derrière de la demeure, la coudée en excédant de part et d'autre sur la longueur d'étoile de la, sur la longueur d'étoile de la tente, dépassera sur la coudée de la demeure de part et d'autre pour les couvrir. Tu feras pour le pour la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge, une couverture en peau de dauphin par-dessus. Tu feras les planches pour la demeure en bois d'acacia posées debout. De 10 coudées seront la longueur de la planche, d'une coudée et demie la largeur d'une planche. Chaque planche aura 2 tenons joints frère à frère. Ainsi feras-tu pour toutes les planches de la demeure. Tu feras les planches pour la demeure, 20 planches en direction du sol vers le midi. Tu feras 40 socles d'argent sous les 20 planches. 2 socles sous une planche pour ces 2 tenons. Et 2 socles sur une planche pour ces 2 tenons. Pour le second côté de la demeure, en direction du nord, tu feras 20 planches, ainsi que leurs 40 socles en argent, 2 socles sous une planche et 2 socles sous une planche. Pour le fond de la demeure, vers l'ouest, tu feras 6 planches. Tu feras 2 planches pour l'angle de la demeure au fond. Elles seront jumelées par en bas. Elles seront également jumelées jusqu'à leur sommet et au premier anneau. Ainsi en sera-t-il pour elles 2. Elles seront aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches, ainsi que leur socle en argent, 16 socles, 2 socles sous une planche, et 2 socles sous une planche. Tu feras des travers en bois d'acacia, 5 pour les planches du premier côté de la demeure, et 5 traverses pour les planches du second côté de la demeure, ainsi que 5 traverses pour les planches du côté de la demeure, au fond vers l'ouest. La traverse médiane, au milieu des planches, traversera d'une extrémité à l'autre extrémité. Les planches, tu les recouvriras d'or. Leurs anneaux, pour loger les traverses, tu les feras en or. Tu recouvriras d'or les traverses. Tu dresseras la demeure selon sa disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie, hein, les voies déterminées de l'art. Hein. C'est absolument les voies déterminées de l'art, c'est impératif du officin. Pourquoi tout cela? Il faut se poser la question. Tu feras un voile de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi et de lin fin retors, œuvre d'artiste. On le fera avec des chérubins. Tu les placeras sur 4 colonnes d'acacia recouvertes d'or, ayant des crochets en or posés sur 4 socles d'or. Tu placeras le voile sous les agrafes, et là, tu introduiras à l'intérieur du voile l'arche du témoignage. Le voile vous en servira de chérubin. Pardon. Largement, le voile vous servira de séparation entre le saint et le saint des saints. Tu placeras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le saint des saints. Tu mettras la table à l'extérieur du voile et le candélabre face à la table, sur le côté de la demeure, vers le midi. Tu placeras la table sur le côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi, de lin fin retors, œuvre de brodeur. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les recouvriras d'or. Leurs crochets seront d'or et tu fondras pour elles 5 socles de bronze. Vous voyez, si vous êtes un peu attentif, hein, à cette manière dont Dieu dit cette œuvre pour aboutir au sein des saints. Vous voyez qu'on va de l'extérieur vers l'intérieur. Toute cette pédagogie divine. On a été de l'extérieur. Et puis on aboutit à l'intérieur. Et on aboutit à ce qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu sous un signe, qui est le point de vue du témoignage. Et qui exprime l'étape de la loi. L'étape de la loi qui sont le témoignage, qui sont l'alliance. Et qui exprime l'étape de la loi, l'étape de la loi qui sont le témoignage, qui sont l'alliance, si vous voulez, le témoignage, l'alliance, l'alliance de Dieu, et qui sont gardées, et qui doit être le lieu le plus intime où, de fait, l'homme est lié, l'homme, le peuple d'Israël est lié à son Dieu. Alors, je crois que cela, c'est important au point de vue pédagogie divine, de saisir cette manière dont Dieu veut révéler par l'action, par la fabrication. Dieu révèle quelque chose. Mais pour nous, le Saint des Saints, c'est le cœur blessé de l'agneau. Il ne faut pas l'oublier. Et alors, c'est toute la construction du temple, c'est une préfiguration du mystère de l'incarnation. Et toute cette préfiguration du temple qui se fait avec tous ses détails et avec une matière toujours noble, rien n'est laissé du tout au hasard. C'est Dieu qui aime la qualité. C'est Dieu qui aime quelque chose qui est beau. Pour annoncer le véritable temple qui sera le temple du corps du Christ. Et c'est l'annonce première. Et je crois que c'est cela que nous devons essayer de saisir, comment tout est ordonné vers le Saint des Saints. Tout est ordonné vers ce cœur caché qui est le lieu de la rencontre de Dieu et des hommes. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau de pourpre violette, de pourpre rouge, de cramoisi et de lin fin retors avec la brodure. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les recouvriras d'or. Leurs crochets seront d'or et tu fondras pour elles 5 socles de bronze. Voyons bien cela comme préfiguration du mystère d'incarnation. Et c'est, je crois, cette espèce de, si vous voulez, d'œuvre d'art qui résume tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus noble, de plus grande valeur du monde, pour que nous comprenions, d'une manière préfigurative, dans un enseignement divin, que le corps du Christ sera le sommet de notre univers. Et quand je vous disais, le corps humain n'a pas de lieu propre. Pour un croyant, c'est le corps du Christ qui est le sommet de tous les corps humains. Maxime Étalé, qui est le corps par excellence et qui, d'une certaine manière, est cause exemplaire de tous les autres corps, qui donne la signification à tous les autres corps et qui est relié directement par le mystère de l'incarnation à la toute-puissance de Dieu, à l'omniprésence de Dieu, à l'omniprésence du Verbe. Le corps du Christ est porté directement par le Verbe. Ah, vous voyez, cette chose mystérieuse, hein, c'est très... Et c'est la théologie du corps du Christ, le Temple. Hein, la première ébauche. C'est une ébauche. Et c'est pour ça que c'est Dieu directement qui la dicte. Vous voyez, si le corps du Christ a été formé en Marie par l'Esprit Saint, directement, avec le télescopage de la cause seconde, hein, il y a quelque chose d'analogue ici, que nous devons saisir, parce que ce n'est pas pour rien, on dira, mais tout ça, on peut le passer. Hein. On a la tentation de le faire, tu vois, c'est tout ça. C'est... Non, je ne crois pas. Je crois qu'on peut évidemment ne pas le relire chaque jour, n'est-ce pas, mais c'est quand même quelque chose qui nous enseigne Dieu, cause exemplaire immédiate. C'est ça qui m'impressionne, au point de vue profond, si vous voulez. Parce que la providence fait que nous sommes dans la causalité exemplaire depuis quelque temps, vous voyez, et avec le lieu depuis quelque temps. Et nous retrouvons ici le lieu, un lieu qui soit le Saint des Saints. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un lieu qui soit le Saint des Saints, un lieu que Dieu lui-même veut construire par le concours des hommes, et c'est Dieu lui-même qui dicte les hommes, ne pourrait pas inventer ça. Alors, essayons de réfléchir au point de vue théologique, hein, puisque c'est Dieu qui éduque son peuple religieux en vue du mystère du Christ. La question qu'on avait posée au plan philosophique, hein, puisque c'est la théologie du lieu. C'est la théologie du lieu de la rencontre. C'est la théologie du lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. Alors, je vous avais dit cette chose, moi, qui m'impressionne au point de vue philosophique. Et c'est vrai, ça m'impressionne au point de vue théologique, au point de vue proprement philosophique, que le corps de l'homme n'a pas de lieu propre. Et qu'il ne peut avoir comme lieu ultime, qui est en même temps un lieu propre, la toute-puissance, l'omniprésence, qui implique la toute-puissance, mais l'omniprésence. Alors, est-ce qu'au point de vue religieux, on n'a pas le devoir de représenter ça? Ou est-ce qu'au point de vue religieux, est-ce que ce n'est pas nécessaire de représenter ça? De représenter que... Il faut que le corps de l'homme devienne le lieu de la rencontre de Dieu et de l'homme. Nous savons que ça se réalisera dans le corps du Christ. Mais tant que ce n'est pas réalisé dans le corps du Christ, il faut qu'il y ait un temple qui vienne de Dieu, qui soit un lieu consacré. Un lieu réservé à l'omniprésence. Vous voyez, ce matin, je vous disais, l'être de raison, Dieu n'y habite pas. Alors, il y a quelque chose qui est au contraire fait par Dieu, ce sanctuaire, ce Saint des Saints, qui est juste l'inverse, qui est le lieu de la rencontre privilégiée, au point de vue religieux, et qui annonce le corps du Christ et le cœur blessé de l'agneau, qui est le lieu privilégié de la rencontre. Vous voyez, tout ça se tient, c'est très curieux, parce qu'il y a des liens entre les deux. C'est ce que j'allais presque dire, hein, comprenez bien, j'allais presque dire que le fait qu'il n'y ait pas de lieu propre pour le corps de l'homme, c'est comme une attente du sanctuaire. C'est l'attente de la construction faite par l'homme. Vous voyez, comme Dieu n'achève pas l'univers pour laisser à l'homme de dire son art. Au plan du lieu et au point de vue religieux, Dieu attend que l'homme construise le sanctuaire, qui est le lieu de la rencontre, qui est un lieu intermédiaire entre le corps de l'homme et l'omniprésence de Dieu, il y a le sanctuaire. Et ce sanctuaire est un sanctuaire d'attente qui sera transformé par le corps du Christ. Et alors, le corps du Christ, lui, sera réellement et immédiatement, et c'est propre au Christ, que le corps du Christ est porté par le Verbe de Dieu, personnellement. Alors, s'il est porté personnellement par le corps de, par le Verbe de Dieu, on peut dire que l'omniprésence de Dieu porte le corps du Christ d'une manière unique. Il fait que le corps du Christ est vraiment habité par l'omniprésence de Dieu d'une façon personnelle. Et presque on a l'impression, si vous voulez, si on essaie de comprendre ça au point de vue théologique, que le fait que le corps de l'homme n'est pas de lieu propre, c'est pour l'attente du corps du Christ. Vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire l'incarnation, mais il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et si on lit ça, si on lit ce passage, hein, Dieu architecte, c'est quand même impressionnant de voir que Dieu construit un lieu de rencontre. Et que ce lieu de rencontre au plan religieux est préfigure quelque chose d'infiniment plus grand, le corps du Christ, le cœur de Jésus, le cœur blessé de Jésus qui est le lieu de la rencontre. Il faut y réfléchir, hein. C'est des choses auxquelles on ne réfléchit pas beaucoup, parce que c'est vrai que c'est très rare qu'on fasse un peu la théologie du lieu, qu'on fasse la théologie de ce que c'est que le temple. Et pour faire la théologie du lieu, il faut faire la philosophie et la sagesse du lieu. Parce que vous savez bien, on ne peut pas se servir de la philosophie sans le passage de la sagesse philosophique. Et donc, on ne peut pas comprendre vraiment ce que c'est que le temple, le lieu de la rencontre, sans avoir un jugement de sagesse sur ce que c'est que le lieu, dans la lumière de l'omniprésence. Et alors, c'est pour ça que ça se rejoint, ça. Et ça nous aide à saisir quelque chose qui demeure toujours mystérieux. Vous voyez, pourquoi le peuple d'Israël pleure-t-il sur le lieu du temple? Ça aussi, c'est significatif. Il y a quand même quelque chose là. C'est pas laissé au hasard. Il y a quelque chose qui explique. Alors évidemment, on peut regarder ça de l'extérieur sociologiquement, hein, en disant qu'il est attaché aux traditions et que... Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ça qui exprime la brèche de la séparation. C'est ça, c'est parce que le temple, il a été brisé. Et le temple a été brisé parce qu'il y a le corps du Christ. Et que c'est le corps du Christ qui est le lieu propre. Et qu'avec le corps du Christ, il ne peut plus y avoir le temple. Il faut que le corps du Christ prenne la place qu'il doit prendre. Et c'est le corps du Christ et c'est le cœur blessé de l'agneau. Ça me frappe beaucoup, ça, vous voyez. Arrivons, je fais la théologie du cœur blessé de Jésus comme cœur de toute la théologie mystique. Et c'est curieux, quand on essaie de regarder la préfiguration du cœur blessé de l'agneau, c'est que, de fait, nous sommes obligés de regarder le Saint des Saints. Et nous retrouvons là le point de vue de la théologie du lieu. Tu feras l'autel en bois d'acacia, 5 coudées de longueur et 5 coudées de largeur. L'autel sera carré et de 3 coudées sera sa hauteur. C'est pour ça que certains refont aujourd'hui des autels carrés. Vous avez déjà vu ça, hein? L'Occident, tous les orthodoxes. Il ne faut pas l'oublier, c'est la raison. Tu feras ses cornes à ses 4 angles. Ses cornes feront corps avec lui. Toujours corps, hein, avec lui. Vous voyez, pour l'unité. Il y a la diversité et l'unité. Et l'unité, on insiste, hein, monothéisme. Il faut que l'unité de Dieu soit marquée à travers le sanctuaire et soit marquée d'une façon continue pour bien montrer que c'est le mystère de la présence d'un Dieu unique. Tu feras ses cornes à ses quatre angles. Ses cornes feront corps avec lui. Tu le recouvriras de bronze. Tu feras ses chaudrons pour sa cendre grasse, ses pelles, ses coupes à aspersion, ses fourchettes et ses cassolettes. Tous ses accessoires, tu les feras en bronze. Tu lui feras un grillage en façon de filet de bronze. Et tu feras sur le filet quatre anneaux de bronze à ses quatre extrémités. Tu les placeras sous l'entablement de l'autel, depuis le bas, et le filet ira jusqu'à mi-hauteur de l'autel. Alors, voyez, si vous avez un peu d'art plastique, vous pouvez reconstruire ça assez facilement. Hein. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia, et tu les recouvriras de bronze. On introduira ces barres dans les anneaux, et les barres seront sur les deux côtés de l'autel quand on le transportera. Tu le feras creux en planche, selon ce qu'on t'a montré sur la montagne, ainsi le fera-t-on. Alors, vous voyez, c'est le bronze ici, c'est plus l'or. Alors, là aussi, il y a des raisons. Quand vous voyez le corps glorieux du Christ, n'oubliez pas, dans la grande vision apocalyptique, il faudrait peut-être voir la vision apocalyptique parallèlement, hein, la grande vision du corps glorifié du Christ, la seule qui existe. Hein. La seule, c'est, vous savez bien, c'est au début de l'Apocalypse. Hein. Il faut y revenir constamment là-dessus. Parce que vous avez la seule vision de Jésus dans la gloire. Et la seule vision de Jésus dans la gloire, c'est le Christ dans la plénitude de sa gloire, et qui est la gloire du prêtre. C'est ça qui est aussi très important pour nous, c'est la glorification, c'est l'attitude religieuse, donc c'est dans l'Apocalypse 1, n'est-ce pas? Et alors on voit le point de vue, le bronze, c'est le point de vue des pieds. Toujours le point de vue du bronze exprime justement la puissance. Et exprime la puissance parce que c'est le point de vue, le bronze exprimant ce point de vue de la puissance. Et ici, nous avons ça au point de vue de l'autel. Tu feras le parvis de la demeure en direction du sud, vers le midi. Le parvis aura des tentures en lin fin retors sur une longueur de 100 coudées pour un côté, ainsi que ses 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets de colonnes et leurs tringles seront d'argent. Alors, or, argent, bronze. Hein. De même, en direction du nord, sur la longueur, il y aura des tentures sur une longueur de 100 coudées, ainsi que ses 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Sur la largeur du parvis, en direction de l'ouest, il y aura des tentures sur 50 coudées, leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. La largeur du parvis, en direction de l'est, au levant, sera de 50 coudées. Il y aura 15 coudées de tentures pour un côté, leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour le second côté, il y aura 15 coudées de tentures, leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi et de fin lin retors, œuvre de brodeur. Leurs 4 colonnes et leurs 4 socles, toutes les colonnes du parvis, tout autour, seront reliées par des tringles d'argent. Leurs crochets seront d'argent et leurs socles de bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, la largeur de 50 sur 50 et la hauteur de 5 coudées, de lin fin retors et leur socle de bronze. Tout le mobilier de la demeure, pour tout en son service, tous ses piquets et tous les piquets du parvis seront de bronze. Et toi, tu commanderas aux fils d'Israël de te procurer de l'huile pure d'olive, concassée pour le luminaire, afin de faire monter une lampe constamment. C'est dans la tente de la rencontre, à l'extérieur du voile, qui est près du témoignage, que la déposeront à Aaron et ses fils, pour que du soir au matin, elle soit devant Yahvé. C'est une institution perpétuelle pour toutes les générations chez les fils d'Israël. Oui, le petit luminaire, l'huile. Aujourd'hui, évidemment, l'électricité remplace malheureusement l'huile. Alors, ça n'a plus tout à fait le même symbolisme. Mais là, c'est très très joli de voir ce symbolisme de la présence. Dieu est présent et l'homme, ne pouvant pas toujours être là, se sert des fruits de la terre et des fruits les plus purs, l'huile, pour montrer sa présence, pour que cette présence monte vers Dieu, comme une présence qui correspond à l'omniprésence. Dieu est toujours présent, l'homme n'est pas toujours présent, il le sait. Et Dieu est miséricordieux. Alors, ils ne demandent pas. Vous voyez, il n'y a que les chefs d'État qui ne sont pas miséricordieux. Alors, ils veulent qu'il y ait toujours une garde de pauvres gens la nuit. Tandis que Dieu est infiniment plus miséricordieux, n'est-ce pas ? Alors, ils demandent uniquement la petite lampe. C'est extraordinaire, ça. C'est parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait cette espèce de tyrannie de sa présence. La présence de Dieu est une présence de miséricorde. Tandis que la présence des hommes n'est pas une présence de miséricorde. Alors, il y a ça. Ils envoient ces pauvres types quand il fait froid. Et alors, ils sont là, et ils sont obligés de se pincer pour ne pas dormir. On a tous vu ça, les gardes, la nuit, en faisait. Moi, je pense toujours à la petite lampe sanctuaire, la miséricorde extraordinaire de Dieu. Parce qu'elle est là, c'est toujours le mystère de la présence. Hein. Si on regarde bien ce mystère de la présence, on voit que du côté de Dieu, Dieu est omniprésent tout le temps, et l'homme ne peut pas l'être tout le temps. Alors Dieu permet... chose très simple, très, très merveilleusement fragile de l'homme qui est là présent pour cela. Alors ensuite, on va s'arrêter, les chapitres 28, ce sont les habits. Hein? Alors Dieu qui se fait couturier pour montrer tout ça doit essayer de nous faire comprendre la robe sans couture. Hein? Faut pas l'oublier. Il y a la robe sans couture, donc il y a jusqu'à l'habit. L'habit qui vient de Dieu est sacré. C'est la différence des autres habits. Notre habit religieux, il remonte là. Il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie de cela. Cet enracinement très profond dans toute une tradition où Dieu veut sanctifier la dimension du temps et la dimension du lieu. Et la dimension du corps, puisque tout ça se conduit au corps du Christ. Et le corps du Christ... qui pour nous est le Saint des Saints.